Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot animée par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne sont disponibles sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibée.blogspot.com.
Reed Daniels.
One man is missing. Two girls lie dead, and somebody is on the other end of the phone. Don't be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid.
Who is it?
Reed Daniels.
Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à un sous-genre passionnant, le thriller paranoïaque. Nous aborderons des films tels que Marathon Man de John Schlesinger, disponible chez Paramount, Clout, disponible chez Rimini à cause d'un assassinat, dispo chez Paramount, et Les Hommes du Président, disponible chez Warner, trois films d'Alagi Pakula, Arlington Road de Mark Pellington, disponible chez Sony, Bug de William Friedkin, édité par Metropolitan, et Point Limite de Sidney Lumet, édité par Rimini. Pour comploter, si je peux m'exprimer ainsi, en bonne compagnie, si, c'est possible, je suis entouré de mes chroniqueurs habituels et habités, évidemment. Je veux bien sûr parler de Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Et mon ami Thomas Roland, dit le loup-garou picard, qui chaque nuit de pleine lune enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA et rédige de sanglants écrits pour la revue Griffe.
Salut Jérôme, salut Damien, et bien sûr, salut à toutes.
Paranoïa, affection mentale dans laquelle le malade souffre de la folie des grandeurs, de celle de la persécution et de troubles délirants.
Le thriller paranoïaque, alors c'est... Déjà, rien que quand je dis ça, c'est tout de suite toute une cinéphilie qui s'offre à nous. Voilà, avec déjà le maître, vraiment celui qui a, on va dire, fait exploser le genre avec des films comme L'Opération Diabolique ou Un Crime dans la tête. Je vais bien sûr parler de John Frankenheimer, mais on a déjà longuement parlé de ces films dans l'émission. Il y a des films aussi moins connus, Mirage d'Edouard Mitrick, par exemple, moins connu avec Gregory Peck, mais qui est aussi un... grand thriller paranoïaque aussi, voilà. Nous, on trouvait, à Culture Prohibée, hein, que c'était intéressant de parler de thriller paranoïaque dans l'époque dans laquelle on vit, où il y a des complots partout, où il y a de la parano partout, où on a peur de se faire vacciner, sinon on va mourir, où c'est des agents pathogènes, le coronavirus qu'on nous a envoyé, de je ne sais quelle superpuissance qui veut nous asservir. Enfin... tout et n'importe quoi, voilà, qui circule. Alors, il fut une époque où on imprimait des livres détestables comme le protocole des sages de Sion. Aujourd'hui, on passe par les réseaux sociaux, par exemple, tout ça. Enfin bon, on est quand même dans un monde un peu étrange, mais tout cela a toujours existé. Hein. Il suffit de revoir The Intruder de Roger Corman pour s'apercevoir que les complotistes ont toujours existé, de tout temps. Voilà. Mais nous, on va s'intéresser. Il y a l'aspect complot qui est très présent dans le thriller paranoïaque, mais on va s'intéresser aussi à l'aspect paranoïa, voilà, tout simplement. C'est-à-dire, ces grands films, alors mes amis, là, ils ont choisi des choses assez incroyables, en particulier les films de Pacula, par exemple, qui sont des grands films paranoïaques par excellence, et puis plus récemment, Bug de Friedkin, voilà, qui a été choisi par notre ami Damien, qui est un film, là aussi, très particulier. Moi, je voulais débuter cette émission, parce que j'ai parlé de Frankenheimer, par un autre film, un film qu'on a abordé très, très, très succinctement à la fin de la dernière saison, parce qu'on était un peu pris par le temps, parce que bon, bah, Covid et compagnie, il fallait aller vite pour essayer de présenter un maximum de choses. Un film de Sidney Lumet, un film de 64, qui s'appelle « Point limite ». Fail Safe, le titre original, avec Henry Fonda, Walter Matthau, Larry Hagman, et oui, J.R. Ewing, et oui, quand même, J.R. Ewing, c'est dans Dallas, les gens de moins de 40 ans ne connaissent pas, mais voilà, c'était vraiment, pour les gens de l'âge à Thomas et moi, c'était vraiment un truc ultra culte, hein, quand même, hein. Faut reconnaître qu'on se l'est fadé. Hein.
T'as commencé à dire nos âges, là, on va commencer à être tracés.
ouais, voilà, exactement, voilà, reste dans le trip. Et là, alors, qu'est-ce que c'est Point limite de Lumet ? C'est une histoire simple, il y a une erreur technique. Un groupe de bombardiers nord-américains, 24, représenté par les Convair B-58 Hustler, reçoit l'ordre d'atomiser Moscou. Ah ouais, rien que ça, voilà. Sauf que c'est une erreur. Donc, normalement, ils n'ont pas allé atomiser Moscou. Sauf que, voilà, il y a une erreur technique qui fait qu'ils sont envoyés pour atomiser Moscou. Et il y a un protocole qui est prévu très particulier où même, si le président des États-Unis les appelle pour dire « vous faites demi-tour », ils ne doivent pas faire demi-tour. Ils ont des ordres à exécuter, voilà, parce que, ben voilà, là, on est dans le top de la parano quand même. Hein. Et le président des États-Unis, donc Henry Fonda, qui mieux qu'Henri Fonda pour être le président des États-Unis ? Il est le président des États-Unis au cinéma, quand même, Henri Fonda. Aidé de ses généraux et de ses conseillers, va tout faire pour convaincre les Soviétiques qu'il s'agit d'un incident et empêcher le déclenchement d'une guerre généralisée. Et alors, derrière tout ça, il y a un général assez noble, le général Warren, hein, Dan Overly, qui se débat au milieu de toutes ces problématiques. Il y a Walter Matthau, qui est un professeur, le professeur Grotschel, qui lui est un grand malade. D'ailleurs, le film s'ouvre sur Walter Matthau, qui a un comportement après assez ignoble avec une femme, en fait, qui se révèle, lui, être un idéologue, voilà, du nucléaire. Hein, il y a Larry Hagman, qui est lui un jeune interprète, enfin pas un interprète, et qui va travailler, qui va rester dans le bureau du président des États-Unis, dans la cellule de crise. Le film, une grande partie du film d'ailleurs, c'est que eux deux. Et le film débute par un générique où on voit un matador. C'est assez impressionnant, qui est en fait un cauchemar d'ailleurs d'un des personnages. Le film débute par une scène onirique parce qu'on va vivre un cauchemar. Voilà, c'est-à-dire que le cauchemar, on va le vivre. On va voir les prémices de la fin du monde dans ce film. Et c'est vraiment, en plus, un film très intéressant parce que les deux blocs sont renvoyés dos à dos. Enfin, on est en pleine guerre froide. Il n'y en a pas vraiment un pour rattraper l'autre. Il faut vraiment avoir en tête qu'on est en pleine guerre froide. Hein. Et surtout, c'est un... Voilà. Comment dire, Sidney Lumet vient de la télé, il a tout appris à la télé, et là, il fait des miracles. Le film n'a quasiment pas de budget, mais malgré sa belle distribution. Le film n'obtient pas le soutien de l'armée, donc tout est fait de briques et de broc. Et il prend des animateurs de chez Disney qui se sont retrouvés au chômage parce qu'ils étaient un peu syndicalistes et que Disney, il ne supportait pas les syndicalistes. Donc, Disney a viré tous les communistes et les syndicalistes. Enfin, de toute façon, pour lui, si tu n'étais pas d'accord avec le patron, tu étais communiste. Hein. Donc, il a viré tout plein de gens de ses studios. Alors lui, il les a récupérés. Donc c'est eux qui ont fait toutes ces animations qu'on voit sur les écrans de contrôle avec ses avions, ses bombes et tout ça. Voilà. Et il se débrouille. Il arrive à créer un décor hyper crédible. On se croirait vraiment au Pentagone, quoi. C'est assez impressionnant. Et c'est un huis clos, ce film. Hyper efficace dans la mise en scène, la maîtrise de l'espace. Enfin, c'est une démonstration de mise en scène, de toute façon. Ouais, il faut dire les choses. Et puis, surtout, c'est un film, parce que c'est un thriller paranoïaque, bordel de merde. Donc, il y a de la tension. Il y a de la tension terrible. Enfin, quand Henry Fonda, il a des gouttes petite perle sur le front, enfin, elle tombe sur tes mains quand tu regardes le film. Toi, t'es complètement accroché à ton fauteuil, alors qu'en fait, c'est juste deux mecs qui se parlent au téléphone, quoi, avec pas mal de kilomètres de distance, mais c'est tellement bien mis en scène. Et alors là, tout y passe, les gros plans, les visages qui sont filmés en plongée, l'alternance plongée, contre-plongée, mélange de focale, focale courte, plus ou moins courte, enfin voilà. Tout le génie, tous les procédés de mise en scène de Lumette sont mis au service de cette intrigue. Cette intrigue incroyable, donc, qui va donner un film qui est un plaidoyer antinucléaire, je dirais même plus que ça, un plaidoyer pacifiste, qui est un film d'une tension comme j'en ai rarement vu au cinéma, quand même, hein, parce qu'on sort du film, on est lessivé, on est essoré.
On peut effectivement dire ça, hein, parce que le film, effectivement, il est tendu. Et comme tu l'as dit, c'est un film à petit budget. On peut remarquer quelque chose dans la mise en scène de Sidney Lumet, c'est qu'elle est très épurée. Bon, elle est très épurée, certainement par manque de budget, mais les décors sont très épurés. Ils sont très déshumanisés, en fait. Par exemple, le bureau de crise du président, c'est des murs blancs. Il y a pas de décor. Bon, en même temps, c'est un bureau de crise. Je veux dire, je m'attends pas à trouver des posters de femmes nues ou du Grand Canyon au mur, quoi. Mais même la salle de contrôle, il y a quelque chose de très déshumanisé. Elle est très sombre, elle est éclairée de façon très sombre. C'est vrai que la mise en scène de Lumet est exemplaire. Et il y a un plan qui, moi, m'a soufflé. C'est un plan séquence qui est tout simple. C'est il y a Henri Fonda à la table, Larry Hagman en face de lui, le téléphone de crise entre eux deux, et ils discutent avec les Russes. Et ça dure vachement longtemps. Et là, le jeu d'acteur, et la caméra bouge pas, il y a pas de champ contre champ, rien. Et le jeu d'acteur, etc. Il est époustouflant. Ce plan, il m'a soufflé, quoi. Mais le film, il est passionnant. On n'en décolle pas pendant 2 heures quasiment. Et bon, c'est un film qui donne pas vraiment la joie de vivre. Hein. C'est effectivement un plaidoyer contre le nucléaire. Mais c'est un des meilleurs Lumet, en tout cas.
Le meilleur Sidney Lumet, je ne sais pas toi, parce que je peux te dire quels sont les moins bons Sidney Lumet, mais il y a tellement de très bons Sidney Lumet que c'est difficile. Cet immense réalisateur mésestimé qu'est Sidney Lumet, même si Serpico, Un après-midi de chien, tout ça, aujourd'hui, ce sont des films qui sont considérés comme des classiques, mais il y a tellement de grands films de Lumet, même 7h58 ce samedi-là, un de ses derniers films est extraordinaire aussi. Voilà. Donc c'est vraiment un réalisateur que je trouve un peu mésestimé, qu'il faudrait vraiment revoir à la hausse. Henri Fonda, c'est extraordinaire dans le film, parce que j'aime beaucoup la performance d'Henri Fonda. J'aime beaucoup Henri Fonda, d'ailleurs, globalement, dans tous ses films. Et Fonda, il fait un très bon président. Et on va rester sur la thématique un peu du président. Puis alors,
Ben voilà, quelque chose qui a particulièrement marqué les États-Unis, Thomas, c'est les fameuses 26 secondes hein, du film de Zapruder, qui est voilà, l'assassinat de Kennedy. Hein, c'est, on peut dire que d'ailleurs, tout le ciné, les thrillers paranoïaques, les grands thrillers paranoïaques, toute une vague de films, et y compris pas que des thrillers paranoïaques, même des thrillers moins politiques, voilà, mais, ou du fantastique, tout, ça, tout découle un peu de ces quelques secondes terribles filmées par un monsieur qui s'appelle Zapruder, donc de la mort de Kennedy. Hein, et beaucoup de films ont décidé d'en faire leur terreau, leur, comment dire, leur substrat, et ça a donné quand même quelques belles réussites.
Oui, en effet, le film d'Abraham Zapruder qui a été manipulé, retourné dans tous les sens, avec des photos qui ont été prises, des photogrammes qui ont été mis hors contexte, etc., a donné lieu à de nombreuses théories du complot sur la mort, l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. À partir de là, il y a un genre cinématographique qui est né, les films de complot, le thriller paranoïaque, tel qu'on a pu en voir fin des années 60 et toutes les années 70 à peu près. Donc les plus célèbres, parmi les plus célèbres, il y a donc la trilogie d'Alan J. Pakula, qui est constituée de Clout en 1971, à cause d'un assassinat en 1974, et de Les Hommes du Président en 1976. Alors Clout, c'est un thriller un peu plus... est-ce que c'est un thriller paranoïaque? On ne sait pas trop. Mais en tout cas, c'est un thriller un petit peu plus conventionnel dans le sens où on ne parle pas vraiment de l'assassinat... Enfin, ce n'est pas vraiment relié à l'assassinat de Kennedy, quelque part. Mais on critique, il y a une forme de critique des élites. Voilà, dans ce film. Donc c'est Clout, c'est un détective privé joué par Donald Sutherland qui est à la recherche d'un homme qui a disparu. Un homme qui a disparu et les seuls liens qu'on a, c'est des lettres qu'il aurait écrites à une prostituée de luxe qui est Jane Fonda à New York. Et donc il va à la recherche de cette prostituée, il va la rencontrer pour l'interroger et essayer de remonter la piste pour savoir si cet homme, Tom Grunman, a vraiment disparu ou pas. Et s'il est vraiment l'auteur de ces lettres. Donc on va découvrir très vite que non, en fait, il n'est pas l'auteur de ces lettres et que c'est quelqu'un d'autre qui est qui vraisemblablement l'a fait disparaître et l'a assassiné et qui est l'auteur de lettres, on va dire, plutôt graveleuses à cette prostituée. Donc c'est un thriller très feutré, très sombre, avec une photographie très sombre. C'est Gordon Willis, le directeur de la photo des Parrains de Coppola, qui a fait la photographie du film et qui a fait aussi la photographie d'À cause d'un assassinat et de Tous les hommes des présidents. Donc ce sont des photographies en général assez sombres, assez feutrées, hein, qui, là, on pénètre vraiment dans les secrets des élites, des choses qui se disent à voix basse, etc., dans des pièces très sombres, très feutrées. Et donc, Clout est le premier volet de cette trilogie de la Jean Pakula. Mais c'est surtout avec À cause d'un assassinat, avec Warren Beatty, où là, il va s'attaquer vraiment au cas Kennedy. Où là, il va remettre en cause la thèse officielle d'un seul tireur, donc Lee Harvey Oswald, d'un seul tireur qui aurait tué Kennedy, en remettant en scène des assassinats de sénateurs et où on aurait... trouvé un seul responsable qui serait mort tout à fait fortuitement alors qu'on veut l'arrêter. Et donc Warren Beatty joue un journaliste qui va se rendre compte qu'il y a des choses bizarres qui se passent, notamment une de ses amies journalistes la prévient en lui disant, 3 ans plus tard après l'assassinat d'un sénateur, que tous ses amis qui ont été présents, qui étaient témoins de l'assassinat, meurent petit à petit. Donc lui ne la croit pas, ne croit pas au complot. Il dit mais non, c'est pas grave, ça n'a rien à voir, ce sont des accidents. Ils sont morts d'une crise cardiaque, etc. etc. Et puis bah, quelques jours après, il retrouve son amie morte d'une crise cardiaque. Bon, la coïncidence est quand même étrange. Et donc Warren Beatty va essayer de remonter une piste et il tombe sur une étrange corporation, la Parallax Corporation. Et là, c'est une corporation qui recrute des gens violents pour assassiner éventuellement des hommes politiques. Et donc c'est une corporation qui n'est pas idéologique, c'est plutôt une corporation qui se fait du pognon et qui se vend plus offrant. Voilà. Et donc il va remonter cette piste-là et il va notamment passer un test un test, The Parallax Test, avec, où il y a une superbe musique de Michael Small à ce moment-là, où on passe différents symboles de l'Amérique pour essayer de lui faire un lavage de cerveau, en gros. Et donc finalement, ce film remet en cause quelque part la thèse officielle de l'assassinat de Kennedy par Lee Harvey Oswald en désignant quelque part une institution qui serait cachée derrière avec un complot qui serait à l'origine de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Le film s'ouvre, enfin, il s'ouvre pas vraiment sur le plan d'une commission en train de dire qu'il n'y a qu'un seul meurtrier, qu'il n'y a pas de complot, en travelling avant, et se termine par le même plan, mais en travelling arrière, qui dit la même chose à propos du final du film.
Moi, c'est un film à cause d'un assassinat. Alors, j'aime beaucoup Clute, voilà, et je trouve que Jane Fonda est sublimement belle. Je crois qu'elle n'a peut-être jamais été aussi bien filmée. Voilà, je la trouve superbe dans le film. Et j'adore son personnage. Mais à la limite, je me rappelle plus de Clute pour le personnage de Jane Fonda, ce qu'elle représente, tout ça, que pour le côté thriller parano. Par ailleurs, c'est un très bon thriller, hein, voilà, Clute. Mais vraiment, à cause d'un assassinat, pour moi, c'est vraiment la matrice du thriller. Du thriller parano, parce que on est comme ce personnage, comme cette sorte d'Alice au pays des merveilles, c'est-à-dire ou alors on peut dire qu'il franchit les rivières du Styx, parce que voilà, mais en tout cas il franchit le fleuve, pardon, le Styx. En tout cas, à un moment il traverse le miroir, il se retrouve dans un autre monde. C'est clairement, il est plus dans le monde réel. Mais il y est quand même. C'est ça qui est assez, assez flippant avec ce film. Et ce film, moi, il me rappelle un film tourné, enfin sorti 3 ans avant, qui est considéré comme un giallo, bien que c'est un film qui est à cheval un peu, voilà, entre les genres. Bon, c'est Je suis vivant d'Aldo Lado. Alors, je pense pas que Pacula soit sciemment inspiré du film, parce que c'est des films très différents. Mais ils décrivent dans cette même ambiance paranoïaque l'idée d'une élite qui se nourrit comme ça de la jeunesse et qui manipule la population, qui met en place des régimes, qui défait des régimes. Et là, on a alors cet aspect en plus, là, dans le... Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, cet aspect en plus dans le film de Pacula, c'est cet aspect très, très, comment dire, critique aussi d'une certaine... forme d'économie, enfin du libéralisme qui va arriver, voilà, parce qu'en fait c'est des, tu l'as dit Thomas, ce sont des, cet organisme là, cet groupuscule, enfin groupuscule non, ils sont puissants, mais cet organisme est surtout motivé par l'appât du gain, enfin il tue des présidents, voilà, puis puis il tue des gens qui foutent, enfin il tue des gens qui leur mettent des bâtons dans les roues, enfin il tue,
ce sont des tueurs à gages,
voilà, c'est des tueurs. Ils sont payés et ils tuent, voilà. Donc avec une spécialisation quand même, hein, voilà. Mais donc c'est assez étonnant. Enfin, et en fin de compte, moi, la première fois que j'ai vu le film, je me suis dit, ah ben c'est juste ça en fait, parce que c'est un côté presque déceptif la première fois que tu vois le film. C'est juste ça, c'est-à-dire que le type, c'est le grand complot. En gros, on est en train de chercher là qui a tué Kennedy, quoi. En gros, parce que c'est ça le sous-texte de l'intrigue. Hein. Mais en fait, c'est juste des tueurs à gages qu'on a payés, quoi. Mais en fin de compte, est-ce si éloigné de cette réalité qu'on ne connaîtra jamais vraiment, même si c'est peut-être juste l'Harvey Oswald, hein, et c'est peut-être la CIA qui l'a payé, c'est peut-être la... On ne sait pas, en fait. Voilà, on ne saura jamais, je pense, hein, sur Kennedy. Et je pense surtout qu'on est tellement bouffé, on se fait tellement bouffer le cerveau par toutes sortes de légendes urbaines et tout, que la vérité, même nous, on a une idée peut-être un peu... comment dire, déformé de la réalité, en particulier aussi à cause du film d'Oliver Stone, JFK, qui est vraiment un film très particulier, qui est très intéressant, hein, le film d'Oliver Stone, peut-être un de ses plus intéressants. Et pour en revenir à la cause d'un assassinat, moi, ce que j'adore, c'est la performance de Warren Beatty, quoi. C'est-à-dire que je trouve que l'évolution du personnage, il la rend très bien, parce que par moments, il a presque ce côté naïf, ce côté... Et nous, on s'identifie complètement à lui, quoi. Et on est complètement perdu avec lui, parce que c'est quand même un film qui a une qualité... c'est que 5 minutes avant qu'une action arrive, on ne peut pas la prévoir. C'est pas si évident que ça, en fait, hein, ce genre de qualité dans un film. Et franchement, je trouve que dans la trilogie que tu as choisie, Thomas, je trouve que c'est le meilleur des trois films, et je trouve que c'est l'archétype, même le prototype, la matrice, à part les films de Frankenheimer, que j'ai cité tout à l'heure, mais la matrice vraiment du thriller paranoïaque moderne.
Alors, je suis d'accord pour dire que c'est la matrice du thriller paranoïaque moderne, parce qu'il y a effectivement le complot d'extrême droite, ou plus ou moins quand même, il y a un peu de ça, le complot d'extrême droite, tout ça, la remise en cause de la thèse officielle de Kennedy, la remise en scène du meurtre de Kennedy à la fin, c'est ça, ni plus ni moins. Hein. Mais par contre, le meilleur des trois, je ne suis pas sûr. Moi, j'aime beaucoup Les Hommes du Président. Je trouve que le film, il est tendu, quoi. Il dure 2 heures, et c'est très tendu. Mais là, on est encore dans un genre un peu différent.
Les Hommes du Président, autre film iconique qui aborde le thème de la parano. Contrairement aux précédents exemples qu'on a donnés, la force des Hommes du Président, c'est que du coup, c'est basé sur le Watergate. Donc, on a quand même une prise avec un dénouement à l'histoire et... la fin de toute la tension qu'il y a à travers le film. Ce qui est super avec le film, et ce que tu as commencé à dire, Thomas, c'est qu'il y a vraiment un rythme avec la tension qui se maintient à travers tout le film, qui utilise un montage très efficace qui permet de nous garder à l'intérieur et de même de vivre cette tension. Et ce qui est intéressant, c'est de la façon dont finalement la caméra se place, qui fait qu'on est souvent juste derrière les journalistes, qui fait qu'on essaye de comprendre en même temps qu'eux. Et on suit du coup, à travers le film, un excellent duo qui en fait essaye de comprendre un fait qui se passe au début du film, qui sont que des hommes vont rentrer dans un bâtiment, ils vont se faire arrêter, vont se faire juger et que les personnes qui vont être présentes pour assister ne sont pas censées être là et qu'au fur et à mesure des informations qu'on va avoir, on va se retrouver avec plusieurs informations contradictoires. Et du coup, le film aborde la thématique du gouvernement qui ment pour essayer de se protéger. Et il va plus loin en parlant même du problème des institutions qui sont censées contrôler ce gouvernement et qui finalement ne font pas leur travail. C'est un peu répétitif au niveau... de l'action. Et ce que j'ai trouvé très drôle en regardant le film, c'est que beaucoup des transcriptions téléphoniques qu'ils écrivent eux-mêmes pour prouver qu'ils ont bien eu cette conversation et pour confirmer les trucs, c'est quelque chose qui aujourd'hui aurait une saveur tout à fait différente, vu qu'il est facile d'enregistrer un appel et qu'on n'a pas besoin de le réécrire dans l'immédiat à la main. Et ce que j'aime beaucoup aussi avec le film, c'est son titre en lui-même, qui est Les Hommes du Président, qui font référence aux personnes qui ont arrêté, qui sont le sujet du film, mais qu'en soi, on ne voit qu'au début du film, et qu'ensuite, on ne voit plus comme un voile, ou plutôt comme des êtres fantomatiques qui, en fait, transpirent dans tout le film. Mais vu qu'on suit juste les deux journalistes, on suit eux qui essayent de retrouver ces personnes dont on sait très peu de choses, ce que j'ai beaucoup apprécié. Et l'une des forces du film, c'est qu'il met en avant ce qu'on a durant très longtemps appelé le quatrième pouvoir, qui est en fait le journalisme, la presse. Et j'aime beaucoup finalement que le film se sente là-dessus pour dire que finalement, le film dit que d'une certaine façon, et pour son époque, le meilleur moyen de mettre fin à un complot, c'est finalement donner à la presse les moyens de faire son travail.
Effectivement, ces fameux hommes du président qu'on ne voit quasiment pas. Hein. Ils sont là, ils imprègnent le récit. Et petit à petit, quelque part, il y a une menace sourde qui est là parce qu'ils appellent des témoins, ils disent que d'abord, ils commencent par dire quelque chose, puis après ils se rétractent, etc. Et c'est à la fin du film, en fait, qu'on leur dit qu'ils sont menacés de mort, en fait, les deux journalistes. Qu'une menace de mort pèse sur eux, etc. Donc il y a effectivement cette menace qui est sourde, ces hommes qui sont là, qu'on ne voit pas, mais qui restent là. Et effectivement, il y a aussi une chose dans la loi, je ne sais pas si c'est encore... je ne vois pas de raison que ça ait changé, mais à l'époque, il n'y a encore pas si longtemps que ça, rencontrer quelqu'un pour une interview, prendre des notes, c'était la preuve. Voilà, j'ai mon carnet de notes, j'ai rencontré la personne, c'est la preuve qu'elle m'a dit ça. Alors qu'un enregistrement, ce n'est pas considéré comme une preuve. C'est ça la différence. Et les hommes du président, la grande force du film, c'est effectivement qu'ils montrent le travail de journalisme d'investigation. Il y en a encore qui en font encore, mais maintenant, à l'heure du journalisme, des chaînes d'infos en direct qui montrent rien et qui ne disent rien, où c'est le vide total, ce film fait vraiment contraste. Donc, il montre bien ce travail de journalisme où les mecs étaient armés de leurs carnets, de leurs stylos, allaient voir les gens, leur téléphoner, allaient se rendre dans des trucs d'archives et fouiller toutes les archives jusqu'à trouver la preuve qu'ils cherchent, etc. C'est la grande force du film. Ensuite, il y a autre chose où le film va ailleurs et rejoint à cause d'un assassinat, c'est dans toutes les scènes où il rencontre Deep Throat, qui est joué par Al Holbrook. Et là, on est dans un autre film, beaucoup plus sombre, où la photographie s'assombrit, on est dans un parking, la photographie est limite bleu-noir, etc. Et là, on retourne dans le film de complot. On retourne dans le film complotiste, comme à cause d'un assassinat. Et ce côté complotiste, en fait, est venu du fait que les gens n'ont plus pris confiance en l'État, en le gouvernement, après toute cette manipulation qu'il y a eu autour du film d'Abraham Zapruder, de toutes les théories qu'il y a eu, tout ce qu'on leur a dit, qui était, on ne sait pas si c'était vrai, si c'était faux, par rapport à l'assassinat de Kennedy. C'est là où les gens ont commencé à perdre confiance dans l'État, où est née aussi cette forme de film, quelque part, qui s'est perdurée dans les séries comme X-Files, etc., et dans d'autres films encore plus récents.
Alors, Deep Throat, c'est gorge profonde hein, pour les non-initiés. Je vais nuancer juste un tout petit propos. Je ne vais pas revenir sur ce que vous avez dit sur le film qui est très juste. Mais nuancer juste un tout petit propos de Thomas. C'est-à-dire que le quatrième pouvoir, effectivement, en France, il n'existe plus. Enfin, il y a Mediapart, il y a des gens encore de valeur hein, qui écrivent dans Libération, qui écrivent. Voilà, il y a des gens qui font de l'investigation de qualité. On peut même citer Malbruno qui bosse au Figaro, parce qu'on ne nous accuse pas de citer que des mecs qui bossent à gauche. Il y a aussi des mecs qui bossent à droite, qui font du très bon boulot. Il y a Denis Robert aussi, qui est plutôt à gauche. Enfin, il y a des gens encore, voilà, qui font du journalisme et du bon journalisme. Mais en France, ce qui domine, c'est effectivement, il y a une très bonne étude de la CRIMED qui est parue cette année. Le quatrième pouvoir en France n'existe plus dans le sens où les grands médias de masse sont devenus effectivement des complices. En gros, du pouvoir. Voilà. Parfois à leur décharge, parfois à leur corps défendant, mais ils le sont. Voilà. Ça, c'est clair, net, précis. Par contre, aux États-Unis, le quatrième pouvoir existe toujours. C'est ça que je voulais dire. Dans les pays anglo-saxons, il existe toujours, il est toujours présent.
On a pu le voir récemment avec l'affaire Weinstein.
Voilà, on l'a vu avec l'affaire Weinstein. Et aux États-Unis, il existe. Alors, il y a des clivages, il y a aussi des médias qui sont vendus, selon à qui ils appartiennent et tout. Mais il y a encore un quatrième pouvoir avec des journalistes capables de faire tomber des gens et peut-être même capables de faire tomber un gouvernement. Enfin, voilà, ça, on ne sait pas encore. Mais sur Trump, il y a certains journalistes qui y vont fort aussi, hein.
Oliver Michael est là, très heureuse de vous
rencontrer. Bonjour Oliver.
Certains voisins attirent la sympathie.
C'est quoi votre métier ?
Ingénieur du génie civil.
D'autres, la méfiance.
C'est le centre commercial ?
Oui, c'est moi qui assure le suivi.
Pourquoi il me dit que c'est un centre commercial si c'est autre chose ? Pourquoi il mentirait ?
Il s'appelle Oliver Long.
Écoute ce que je te dis, il a pris l'identité d'un autre homme.
Paranoïa.
Il se passe quelque chose dans cette maison.
Ou conspiration.
Écoute pas.
Ton voisin ?
Oui !
Est un terroriste.
Jeff Bridges recherche la vérité dans un thriller haletant.
Bon, Thomas, je suis très content. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de parler de Marathon Man, de John Schlesinger, mais je suis très content que tu aies choisi dans ta sélection Arlington Road de Mark Pennington, qui est un grand film paranoïaque totalement méconnu, où, en gros, l'histoire est simple, hein, Jeff Bridges, il est persuadé de connaître un terroriste quoi, qui va tout faire péter, voilà, qui est joué par Tim Robbins, ce terroriste. Et puis, personne ne veut le croire, ce Jeff Bridges, évidemment, jusqu'à l'inéluctable, ou pas. Voilà. Et ça donne un grand film paranoïaque, comme j'en ai rarement vu. Et je me souviens, quand j'ai découvert ce film, je l'ai découvert à la télévision, parce que je n'avais absolument pas entendu parler quand il est sorti au cinéma. Le film n'avait pas du tout fait de buzz, comme on dit aujourd'hui. Il n'avait pas une critique défavorable, mais pas non plus suscité un engouement incroyable. Et je suis resté, je me rappelle, ça passait sur Canal+, je suis resté scotché dans mon canap'. Je me suis dit, putain, c'est vachement bien, quoi. Ça faisait longtemps que je n'étais pas resté scotché comme ça devant un film où il y a une tension incroyable. À un moment, on ne sait plus si on est dans la réalité, on ne sait plus. Enfin bon, c'est un film, on perd tous nos repères. Gros film méconnu quand même, hein.
Je crois qu'à l'époque, le film a été pas très bien reçu en France parce que on l'accusait d'être plutôt très à droite. Alors que le film, en fait, le personnage incarné par Tim Robbins est très ambigu, c'est vrai. Il est très ambigu. Alors, il a un discours. L'État, nous les petits, ils nous assassinent, ils nous étouffent, etc., etc. Ils nous rachètent un truc anticapitaliste au possible, etc. Mais finalement, est-ce que on ne sait pas où il est, quoi. On ne sait pas si c'est l'extrême gauche ou si c'est l'extrême droite, en fait, quelque part. Donc le film est très ambigu par rapport à ça.
Ah bah, d'autant plus qu'on le voit, bon, on le voit en France, par exemple, avec le Rassemblement National, le discours anticapitaliste est régulièrement récupéré par les fascistes, voilà. La rhétorique de Trump, elle n'est pas très éloignée. On va s'occuper des gens qui sont spoliés, des gens qu'on n'écoute pas, des gens... Enfin, voilà, donc c'est un peu... je pense que c'est encore une attaque de certains bien-pensants qui n'ont pas vraiment analysé ça à l'aune du spectre politique états-unien aussi, qui est différent de celui qu'on a en Europe. Parce que le personnage de Tim Robbins, il est ambigu, mais moi, je ne peux pas te dire où il est politiquement.
Ben non.
C'est impossible. Non. Voilà.
Et en plus, le film s'inspire ouvertement de l'attentat de Oklahoma City, où c'était un acte terroriste qui a été perpétré le 19 avril 1995 par un certain Timothy McVeigh, qui a fait sauter un véhicule bourré d'explosifs. C'était le plus destructeur sur le sol américain jusqu'aux attentats du 11 septembre, en fait. Et donc, ce Timothy McVeigh était un ancien militaire, un amateur et un collectionneur d'armes. C'est surprenant, hein. Et il était devenu vendeur d'armes dans les foires à travers le pays. Il était opposé notamment à la gestion par le gouvernement fédéral du siège de Waco et de l'incident de Ruby Ridge. Le sympathisant du mouvement des miliciens programme son acte pour le faire coïncider avec justement le deuxième anniversaire du siège de Waco. Donc, dans les heures qui suivent l'explosion, il est arrêté pour conduite d'un véhicule sans plaque d'immatriculation et port d'armes illégales aussi, en passant. Et donc, les preuves collectées par la police scientifique le lient rapidement à l'attentat. En enquêtant sur son parcours et son réseau, les enquêteurs identifient aussi Terry Nichols, Michael Fortier et Laurie Fortier comme ses complices, qui sont inculpés aussi quelques jours après. Donc, le film s'inspire directement de ça, à part que là... Dans le film, il y a eu déjà un attentat auparavant. Les personnages font référence à un attentat qui a eu lieu auparavant, qui n'est pas fictionnalisé dans le film, où un personnage se fait sauter près d'un attentat fédéral, près d'un immeuble fédéral, et ne retrouve pas d'autres complices. Et donc, l'idée, c'est de fomenter qu'il y a un complot d'extrême droite, mais qui arrive à agir en sous-main, complètement caché, n'identifier qu'un seul responsable, comme dans le film d'Alan J. Pakula à cause d'un assassinat.
Quand t'auras servi ça, rejoins-moi près du jukebox. Je veux te présenter quelqu'un.
Tu es très belle.
J'adore t'écouter. Si tu veux, t'as qu'à rester là cette nuit.
Je te remercie.
Qu'est-ce que c'est ?
Là, tu le vois ? C'est un insecte.
Jerry, je refuse que tu restes ici.
Tu me jettes dehors ?
Fais ta garde !
Il y en a partout dans la chambre.
Tu n'as rien sous la peau.
Il faut l'extraire.
Je vais l'extraire et je vais te le montrer.
le réalisateur de L'Exorciste revient.
Ouvre cette porte !
Et signe le plus perturbant de ses films.
Ils veulent qu'on sache que c'est là.
Bug.
On n'est jamais vraiment en sécurité.
Je sais pas si Damien est parano, mais il va peut-être trouver qu'on a trop parlé. Voilà, il va peut-être trouver qu'on a comploté contre lui, qu'on lui a pas beaucoup laissé la parole. Alors du coup, ce que je propose, c'est que le film de promotion de l'International des dentistes, donc Marathon Man de Schlesinger, on n'en parlera pas, mais on en parlera peut-être une autre fois. Mais en tout cas, aujourd'hui, on peut pas en parler. Voilà, on va terminer quand même avec un film que notre ami Damien avait sélectionné. Et qui est un film que j'adore, qui est le film du comeback de Friedkin, hein. Enfin du comeback. Pour Thomas et moi, Friedkin n'était jamais parti, mais bon, disons que la critique l'a redécouvert au moment de la sortie de ce film. C'est Bug, insecte, Bug. Voilà, un film vraiment dans le genre bien flippant et malaisant qui se pose là.
J'ai aussi redécouvert Friedkin au moment de la sortie de ce film que je connaissais uniquement pour l'exorcisme, mais c'est le moment où j'ai fait « Ah, il a fait d'autres films !» Et du coup, je me suis précipité avec beaucoup d'engouement pour aller le voir. Je l'ai découvert par hasard. Donc, Bug nous raconte l'histoire de Agnès, une serveuse solitaire avec un ex-mari violent qui vit dans un endroit assez piteux et qui n'a pas une super vie finalement, qui va rencontrer Peter... un homme calme, légèrement excentrique et assez mystérieux qui va lui redonner espoir finalement d'avoir une vie saine. Sauf que ça ne va pas se passer aussi facilement. Donc le point de départ du film, c'est justement lors de la première relation entre Agnès et Peter. Ce dernier va se penser infecté par un insecte. Un aphibe, précisément, donc ce qui ressemble à des pucerons. Et en fait, Agnès va commencer à partager cette vision de Peter qui est en fait attaqué par les insectes liés à son passé de militaire, comme il le dit. Et donc, Bug est un huis clos que j'aime beaucoup parce que ça fait un peu... Ça fait un peu un Home Invasion, mais avec des insectes, un peu comme dans Phase 4, même si ici on a affaire à quelque chose de beaucoup plus petit. Les plans sont très beaux. J'aime notamment la façon dont l'ex-mari violent d'Agnès est introduit, c'est-à-dire qu'il sort de la douche avec la fumée, comme s'il sortait de l'enfer. L'esthétique est magnifique. J'aime beaucoup l'étalonnage, surtout dans la scène de fin qui est remplie d'un bleu électrique. Et ce que j'aime beaucoup, c'est de la façon dont Peter et Agnès sombrent tous les deux dans cette folie ou de cette réalité selon le point de vue dans lequel on se place. Et ce que j'aime beaucoup au final, c'est que toute cette scène de parano débute justement avec une scène d'amour, ce qui me rappelle un peu l'idée d'une maladie sexuellement transmissible qu'on retrouve dans It Follows. Et donc, les proportions vont devenir au fur et à mesure très grandes. Et ce que j'apprécie aussi, c'est la manière dont Agnès, qui a eu toute sa vie misérable, finalement, au final, reste attachée à Peter, qui commence à devenir de plus en plus extrême dans sa théorie, tout simplement parce que elle est la meilleure personne qu'elle ait connue depuis très longtemps et qu'elle refuse de finalement perdre cette chose qu'elle vient de gagner.
Tu citais It Follows. Alors It Follows, c'est un peu différent, mais bon, c'est un film, c'est pareil, qui a été incompris parce que on l'a accusé d'être puritain, alors que c'est pas un film puritain puisque il faut coucher pour se débarrasser de son. Donc c'est la guérison qui est sexuellement transmissible en fait dans It Follows plutôt. Enfin, moi je vois les choses comme ça après. Mais par contre. C'est aussi, on redécouvre Friedkin, mais on découvre un acteur, on découvre Michael Shannon aussi, parce que Michael Shannon est génial. Parce que le film, Michael Shannon et Ashley Judd sont super bien dirigés par Friedkin, et c'est un film qui pourrait être ridicule en fait. Les moments où il s'enveloppe dans du papier alu, tout ça, on pourrait être mort de rire, trouver ça. Nanarland aurait pu le mettre sur son site, hein, voilà, puisque Nanarland voit des nanars partout. C'est pas le cas du tout. Et il y a un discours qui est très intéressant, qu'on retrouve aussi dans Killer Joe, sur la société de consommation et sur le fait que l'Amérique, c'est un pays de va-t-en-guerre, quoi.
C'est super intéressant. Friedkin, c'est quand même un mec hyper ambigu, mais il est vachement intéressant dans tout ce qu'il développe comme thématique. C'est pas anodin, le fait que le mec, c'est un ancien combattant, qui parle tout le temps de la guerre du Golfe. Il est totalement obsédé par la guerre du Golfe, en fait. Et moi, je trouve que c'est... Alors, c'est étonnant, parce que c'est un film, au premier abord, qui pourrait se voir juste comme une folie qui en rencontre une autre, et puis la folie atteint son paroxysme parce que ces deux-là étaient faits pour se rencontrer. Sinon, la folie n'aurait pas atteint ce paroxysme. Lui tout seul n'aurait peut-être pas déliré comme ça, et elle, si elle ne l'avait pas rencontré, n'aurait peut-être pas basculé comme ça. C'est un peu l'histoire de... Je fais un rapprochement un peu étrange, mais de l'affaire Fourniret. C'est-à-dire que Fourniret, avant de rencontrer sa femme, il ne tuait pas. C'était un violeur, mais ce n'était pas un tueur. Et à un moment, je ne sais pas, la rencontre se fait. Alors moi, je ne suis pas psychanalyste, hein, mais bon, les spécialistes travaillent sur le sujet, de toute façon. Et c'est le fait que le couple existe, que le fait qu'il passe à l'acte parce qu'il est en couple. Et là, bon, là, ce n'est pas des tueurs, mais je veux dire, lui, la folie atteint le paroxysme parce qu'ils sont en couple. Ah, chez Friedkin, c'est quand même un truc hyper récurrent, c'est-à-dire la virilité, le fait que c'est un pays de va-t-en-guerre, justement parce qu'il y a la virilité aussi qui entre en jeu. Et puis le fait, le sacro-saint modèle familial et le couple qui explose. Enfin, c'est présent dans L'Exorciste, c'est présent partout, c'est présent dans tous ses films. C'est vraiment quelque chose qui... Bon, lui aussi a eu une vie dissolue, on va dire, d'un point de vue sentimental. Et c'est très important pour moi, ça, dans ce film. Et c'est vraiment un film, pour moi, qui détruit quelque part l'idéal américain, le rêve américain. Et moi, je ferais bien un parallèle avec Killer Joe, quoi.
De toute façon, c'est écrit par le même homme. C'est d'après des pièces du même homme. Mais il y a aussi un détail qui m'a frappé là, quand j'ai revu Bug, c'est que en fait, ce personnage là, interprété par Michael Shannon, quelque part, c'est un peu la figure du vampire aussi. Parce que quand ils sortent de la boîte et qu'ils vont chez elle, il reste sur le palier. En fait, il attend qu'elle l'invite. Il ne veut pas rentrer sans qu'elle l'invite. Et là, à partir de là, il ne décolle plus de chez elle, quasiment. Et il la vampirise. Et comme tu le dis, comme tu l'as très bien fait remarquer, c'est la scène d'amour qui est clé, quoi. C'est quand ils couchent ensemble dans cette étrange scène d'amour qui est à la fois très sensuelle et très malaisante. Mais c'est là que les choses se cristallisent, en fait. Et au fur et à mesure, il la vampirise. Elle finit par péter des plombs aussi, parce que lui, il est là, il la vampirise, il la modèle à son image. C'est une sorte de Pygmalion, ce mec.
Pour reprendre ce que tu disais, Jérôme, parce que j'y pense, tu as dit que tu as tout le délire militaire que tu retrouves un peu dans Friedkin. En fait, c'est très intéressant parce que Friedkin, à propos de Buck, on lui a demandé justement l'origine de son personnage qui était militaire, c'était quoi le traumatisme qu'il avait subi. Et ben, Friedkin a dit qu'il l'avait pas créé en étant un personnage militaire, ce qui fait que, à ses yeux lui-même, c'est pas forcément quelqu'un qui a été militaire, mais c'est quelqu'un qui pourrait mentir à ce propos.
Ce qui, en fait, ne change rien en fait à la critique que fait Friedkin de l'Amérique, du pays va-t-en-guerre et tout ça, enfin du pays impérialiste, voilà. C'est assez étonnant, mais c'est Friedkin. Enfin, je veux dire, c'est un personnage complexe qui a fait un cinéma complexe, même dans des films plus mineurs comme Blue Chips, par exemple, on retrouve toutes ces thématiques-là, la destruction du rêve américain, tout ça, c'est présent aussi là-dedans. Moi, je trouve que c'est un cinéaste passionnant et que c'est effectivement un cinéaste capable d'être passionnant aussi dans l'illustration de la paranoïa, quoi. Et qu'effectivement, Bug, c'est sans doute, dans sa décennie, le plus grand thriller paranoïaque de son époque, je pense. Sincèrement, sans exagérer, moi, quand je l'ai vu, ça faisait des années que je n'avais pas vu un tel film, d'une telle qualité esthétique, qualité... tout est parfait, quoi. Le film est parfait. Et pour moi, c'est vraiment un grand film et c'est vraiment le reflet de l'état de l'Amérique au moment où il est tourné, quoi. We'll be right back.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, PodCloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey, dit la Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit le Loup-Garou Picard, and the last but not the least. Je vais bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.
All of which are American dreams!